Oui, Jésus revient bientôt. Comme disait David tout à l'heure, c'est vrai, est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Tout sera tamisé à ce moment-là, nous. On a parlé de nos pensées, de nos actions, de nos œuvres. Il y a une chose qui sera tamisée aussi. Ce sont nos paroles qui sortent de notre bouche. Elles seront tamisées. Si je les tamise moi-même, elles n'auront plus besoin de passer par le tamis de Dieu. Je dois tamiser les paroles aussi pour être agréable, pour être de plus en plus agréable à notre Dieu. Un jour, un homme vient voir un philosophe, un sage, disons-nous. Il lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose de très important au sujet de ton ami. Il attend un peu, l'interrompt, le philosophe, le sage. Ce que tu vas me raconter, l'as-tu déjà fait passer par les trois filtres? Quels trois filtres? Demande tout étonné l'homme bavard. Alors écoute-moi bien. Le premier filtre est le filtre de la vérité. Es-tu bien sûr que tout ce que tu veux me raconter est vrai? Sans qui le sage? Je n'en sais pas trop. Je ne l'ai appris que par oui dire. Donc tu l'as certainement fait passer par le deuxième filtre. Le filtre de la bonté. L'homme rougit et répond mal à l'aise. Je l'avoue. Non, je ne l'ai pas fait non plus. Mais alors, l'as-tu au moins fait passer par le troisième filtre? T'es-tu demandé si ce que tu voulais me raconter est utile? Utile? Non, pas vraiment. Vois-tu, si ce que tu voulais me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, il vaut mieux le garder pour toi. Une jeune femme raconte... Un jour au lycée, je rapporte un bulletin de notes, d'excellentes notes dans toutes les matières. Je m'attends aux félicitations de mon père, qui s'exclame « Eh bien, le niveau de ton école doit être bien bas. » Cette anecdote, 35 ans après, dit cette personne, m'habite encore, 35 ans après. Et cette réflexion, vous l'avez sûrement entendue aussi. Je ne t'ai pas désiré. C'est un accident, une erreur de la nature. Combien de fois nous avons peut-être entendu ces choses? Oh, combien c'est dur pour un enfant d'entendre une telle parole dans la bouche de sa maman. Ça blesse profondément. Ce sont des exemples parmi d'autres du pouvoir de nos paroles. Ces paroles qui blessent et qui font mal pour toute la vie, même dans certaines situations. Nos paroles ont une puissance de salut et une puissance de condamnation. Autrefois, prononcer une malédiction revenait à proclamer une sentence de mort. Dire du mal de quelqu'un revient dans certains cas à le maudire, à mettre un poids sur sa vie dont il ne se relèvera peut-être pas. Vous avez entendu parler du témoignage de Nicky Cruz, qui à l'âge de 8 ans, 9 ans, sa mère lui a dit « Va-t'en, tu es le fils du diable. » Qu'est-ce qu'il est devenu chef de gang? Il a tué, il a violé, il a volé tout cela, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est devenu serviteur, un prédicateur de l'Évangile. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, et les versets 20 et 21 que nous pouvons lire. Proverbes 18. David, tu peux nous lire ces versets?
18, 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
Même la santé de nos corps dépend de nos paroles. Ce que nous disons est vraiment important. En hébreu, même le mot « dire » n'existe pas. En hébreu, le mot « dire », c'est le mot « sapir »,« saphir ». C'est « donner des pierres précieuses ». Si nous pouvions nous imaginer que, voilà, mettre un frein à la bouche de nos lèvres, n'est-ce pas, la porte de nos bouches, pour que ce que nous disions, nous ne le disions pas, mais nous donnions quelque chose de précieux. Combien de malades, aujourd'hui, qui sont malades uniquement à cause des paroles qu'ils prononcent, qu'ils ont prononcées. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que nous semons, pas simplement à travers le témoignage, mais au travers de nos paroles, eh bien, un jour, nous allons le récolter aussi. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire nos paroles ont une réelle influence sur la santé de nos corps, de nos membres. Il y a une relation entre ce qui sort de nos bouches et une bonne santé de nos corps. Un corps malade, pas toujours, mais un corps malade est bien des fois en relation avec ce qui sort de nos bouches. Que dit le Seigneur sur la manière d'utiliser notre langue? Quels sont les effets de nos paroles sur notre propre vie et sur la vie de ceux qui nous entourent? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, au verset 37, je vais demander à Francisco de nous lire Matthieu 12, verset 37.
Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné.
Nos paroles. Oui, nos paroles sont importantes. Nos actions, comme nos pensées, sont importantes. Ce que nous pensons, cela vient de nous, de nos cœurs. Ce que nous prononçons, nos paroles, viennent de nos cœurs. Si dans nos cœurs il y a de bonnes choses, alors aussi de nos bouches sortira de bonnes choses. Dieu regarde nos actes, lit les pensées de nos cœurs, mais le Seigneur, dans sa parole, nous met souvent en garde au sujet de la langue et des paroles. La parole n'est pas anodine. C'est pourquoi Jésus nous dit que nos paroles seront aussi pesées, seront tamisées. Nos paroles comportent une responsabilité qui nous est confiée. Je suis responsable des paroles que je prononce. C'est pourquoi je ne dois pas les prononcer en vain, je ne dois pas les prononcer de n'importe quelle manière, je dois faire attention aux paroles que je prononce. La parole, notre Dieu nous exhorte à réfléchir à ce que nous allons dire. Est-ce que nos paroles, comme on l'a lu dans le premier témoignage, ce sage, est-ce que vous savez au fait de quel sage s'agit-il, cette histoire? Est-ce que vous savez de quel sage, sage bien connu dans le monde? Est-ce que vous savez quel sage? Est-ce que quelqu'un sait, non, qui a entendu cette parole? C'est Socrate. C'est un ami qui est allé trouver Socrate. Donc, vous vous rappelez, est-ce que nos paroles sont vraiment ou vont vraiment être utiles, vont être édifiantes pour celui qui va entendre nos paroles? Ou est-ce que, attention, non, je ne vais pas dire cela parce que je peux blesser, je peux faire du mal à l'autre. Oui, vont-elles vraiment faire du bien à l'autre? Si ce n'est pas le cas, il est préférable de se taire. Nous avons besoin d'entendre de bonnes paroles qui vont nous faire du bien. Mais les autres aussi ont besoin d'entendre des paroles qui vont sortir de notre bouche et qui vont faire du bien aussi aux autres. Et non des paroles qui vont nous démolir, nous décourager, diminuer, abaisser notre foi, ou même nous, pas simplement nous blesser, mais tuer quelque chose en nous. Vous savez, par la mort, il y a un pouvoir de vie, un pouvoir de mort, donc un pouvoir de tuer au travers de nos paroles. Souvent, les paroles sortent de notre bouche avant même que nous y avons vraiment réfléchi. Est-ce que je pèse, est-ce que je mesure, est-ce que j'ai réfléchi aux paroles que je vais dire à mon frère, à ma sœur, à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, à mon entourage? Est-ce que j'ai réfléchi à ces paroles ou bien elles sortent comme ça à tout vent? On est rarement conscient de l'effet de nos paroles sur les autres. On n'y pense pas. Ça sort comme ça, ça jaillit de nos cœurs, de nos bouches. On ne pèse pas, on ne mesure pas l'effet que cela peut porter sur les autres. La nature nous a donné une langue, deux oreilles, afin que nous écoutions davantage et que nous parlions moins. C'est Dieu, la nature, Dieu. Dieu nous a donné une langue et deux oreilles. deux oreilles pour écouter davantage, une langue pour parler moins. Soyons prompts à écouter, mais lents à donner une réponse. N'ayons pas peur du silence, n'ayons pas peur de nous taire, même lorsqu'il face à des paroles agressives, face à des paroles qui nous blessent, même ne réagissons pas, ne nous emportons pas. Je m'enseigne moi-même en vous partageant ce que je vous dis, Seigneur, je l'applique à moi-même d'abord. Celui qui lance de telles paroles peut ne pas s'en souvenir du tout quelques jours plus tard. Pour lui-même, autant la parole est légère pour celui qui la jette, mais elles peuvent rester longtemps dans le cœur de celui qui les a reçues. Vous voyez, celui qui jette la parole, quelque temps ne pensera plus à ces paroles, mais celui qui a reçu ces paroles, lui, il va les garder longtemps. Autant elle est lourde, donc cette parole, lourde sens pour celui qui reçoit cette parole. Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3.
Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
Voilà une belle prière, n'est-ce pas, que nous pourrions faire chaque jour, surtout si nous sommes habitués à parler peut-être un peu trop. Si nous avons la parole facile, si nos paroles sortent trop facilement de nos bouches, voilà une belle prière à faire. Mais chacun, je crois, nous pouvons faire cette prière. Éternel, mets une garde à ma bouche. Combien de fois, n'est-ce pas, au travers de nos paroles, nous avons blessé les uns ou les autres. Veille sur la porte de mes lèvres. Parce que Jésus va nous dire, dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il y a de bonnes choses, alors alléluia. N'est-ce pas? C'est que son nom soit béni. Mais si c'est dans le cœur qu'il y a de mauvaises choses, de mauvaises pensées, de l'amertume, de l'agressivité, alors notre bouche aussi parlera d'une manière agressive, parlera d'une manière blessante. Et au verset 36, un peu plus loin, Jésus rajoute, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée ou prononcée. Pouvons-nous nous imaginer cela? Qu'un jour, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée? Nous n'y pensons pas assez souvent, sinon on mesurerait davantage nos paroles. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Nos paroles, oui, ont un pouvoir réel. Ce pouvoir dépend souvent du moment choisi. Vous voyez, il y a des moments où il faut nous taire. Il y a des moments où nous pouvons parler. Si nous avons réfléchi, faisons ce que nous allons dire. Une parole donnée au moment opportun a le pouvoir d'encourager. Un coureur a achevé la course. Nous sommes engagés dans une course, dans la course qui nous mène au but, qui nous mène à Jésus-Christ. Donc, un coureur est peut-être là, c'est fatigué dans sa marche, dans sa course chrétienne, et une bonne parole apportée au moment opportun va l'encourager, va l'aider. Une parole donnée au moment opportun a le pouvoir de ranimer l'espérance quand le désespoir survient, d'apporter un peu de douceur dans une vie qui sinon serait dure. C'est pas si tout le monde imaginait que de toutes les bouches que nous entendons, ce sont que des paroles dures, des paroles blessantes. La vie serait infernale. Et un peu de douceur. Et que nos paroles pleines de douceur s'accompagnent aussi avec un regard plein d'amour, plein de respect, plein de douceur. Cela peut se lire, cela peut se voir aussi dans le regard. Si nos regards, oui, si j'apporte une parole douce et puis j'ai un regard dur, il n'y a pas d'harmonie. Pour synchronisation de nos paroles avec nos regards, avec nos pensées, avec notre cœur. Une parole donnée au moment opportun a le pouvoir d'apaiser. Je peux apaiser une situation peut-être apaisée. Un conflit peut être apaisé, mais si elle n'est pas apportée au bon moment opportun, cette parole peut transpercer, peut vraiment faire du mal. Parole donnée au moment opportun, le pouvoir de construire. Voilà, je construis une relation, je construis une nouvelle attitude, un nouveau comportement, de nouvelles pensées, de nouvelles manières de voir l'autre, je construis cela. Mais parole qui n'est pas tamisée peut aussi avoir le pouvoir de démolir, le pouvoir de construire, le pouvoir de démolir. Et aussi une parole donnée au moment opportun, le pouvoir de faire bifurquer une vie d'une mauvaise direction vers la bonne voie. Au travers du message de l'Évangile, au travers du témoignage, eh bien, parole peut faire changer de direction. Le livre des Proverbes, encore au chapitre 12 et au verset 18, nous dit « La langue des sages est guérison ». Vous voyez, au travers de la langue, au travers de nos paroles, moment opportun, bien réfléchi, bien pesé, peut apporter la guérison dans le cœur de celui qui entend ces paroles. Guérison pour celui qui parle, guérison pour celui qui écoute. Parce que celui qui parle, eh bien, il réfléchit à ce qu'il dit, et cela lui fait du bien en lui-même, et il fait du bien à celui qui écoute. La langue du sage est dans son cœur, tandis que le cœur de l'insensé est dans sa bouche. La langue du sage est dans son cœur, le cœur de l'insensé est dans sa bouche. Une langue douce est un arbre de vie, nous dit le Proverbe 15, verset 4. Un mot aimable, c'est comme un jour de printemps. Un mot aimable est comme un jour de printemps. C'est un proverbe russe. Proverbe russe, vous voyez, un mot aimable est comme un jour de printemps. Proverbe 16, verset 2. Les discours agréables sont douceur pour l'âme et pour le corps. L'apôtre Paul aussi nous parle de l'importance de nos paroles. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 29,
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Voilà, et dans Colossiens 4, 6 aussi, que vos discours ou vos paroles soient toujours accompagnés de grâce et assaisonnés de sel. Vous voyez combien l'apôtre Paul, aux Éphésiens, aux Colossiens, prend aussi, fait face aux paroles et nous dit voilà comment doivent être vos paroles, accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Non pas assaisonnées de piment ou de poivre, mais assaisonnées du sel, le sel de la vie. Alors, il y a 5 types de blessures verbales. Il y a, premièrement, les paroles tranchantes. Deuxièmement, il y a les paroles acerbes, blessantes ou offensantes, qui transpercent, qui pénètrent. Puis, il y a les paroles venimeuses ou virulentes, qui sont agressives, brutales, coléreuses. Puis, il y a les paroles polluantes. Tout cela, on trouve dans la Bible, qui infecte. Ça sent mauvais, les paroles polluantes qui infectent. Puis, les cinquièmes types de paroles, les paroles acides, aigres ou piquantes, qui brûlent. Leur cause et leur traitement, oui, bien, là, mais ce serait tout un séminaire qu'il faudrait, oui, pour traiter ce sujet. Je vais commencer par un. Et puis, que se passe-t-il si nous polarisons sur l'offenseur? Qu'est-ce qui se produit lorsque nous polarisons, concentrons, focalisons toute notre pensée et toute notre énergie sur ceux qui nous ont offensés? Nous nous détruisons plus que celui qui a voulu nous adresser ou celui qui nous adresse ses paroles. En nous focalisant, nous centrant sur ce que nous avons reçu, nous nous détruisons. Et puis les bénédictions promises à ceux qui souffrent pour la justice à cause des paroles qui blessent, réconfortons-nous par les promesses de Dieu quand nous souffrons injustement. Donc premièrement, les paroles tranchantes. Hébreux 4, 12, bien sûr, nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Hélas, c'est bien pour la parole. Il faut qu'elle fasse son œuvre. Mais nos paroles, parfois, malheureusement, elles sont aussi tranchantes. Elles peuvent être tranchantes. Si c'est pour le bien, c'est bien. Si c'est en accord avec Dieu, avec ce que Dieu, le message de Dieu, d'accord. Mais si c'est pour détruire, si c'est pour faire du mal, si ça n'a pas été passé au tamis, si ça n'a pas été réfléchi, pensé, pesé, alors là, nous tranchons même pour la destruction. En hébreu, tranchant veut dire aussi puissant, la parole de Dieu puissante, cela veut dire aussi féroce. Une parole tranchante, donc, elle peut être féroce dans celui qui la reçoit, et si c'est dit pas au moment opportun et de la mauvaise manière. Donc, il y a d'autres sens aussi, aigu, perçant, rude, amer, opposé à dur, à doux plutôt, plaisant. Contraire au plaisant. Dans la Bible, il est souvent question de paroles, de leurs bienfaits, de leurs méfaits. L'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donné est celui de la parole. Est-ce que nous aurions une raison d'être ce matin ici? Si nous étions tous muets, oui, bien sûr, il y a le langage des sourds et des muets, mais combien nous sommes heureux, n'est-ce pas, de pouvoir entendre une parole. Par nos paroles, nous pouvons louer son nom. Les paroles reflètent notre âme. Par nos paroles, nous pouvons être en bénédiction les uns envers les autres, leur faire du bien, de grand bien, les encourager. Que nos paroles soient sincères et expriment réellement notre pensée, nos sentiments, notre cœur. Les paroles tranchantes, d'où viennent-elles, ces paroles tranchantes et qui font mal? Elles viennent d'un manque de douceur. Elles ont un bord acéré, comme on l'a vu avec la parole de Dieu, elles ont un bord acéré, mais pas pour le bien, mais pour le mal. Ces paroles-là, tranchantes, sont souvent prononcées avec sarcasme, motivées par l'envie, par la colère, par l'amertume. Et ces paroles, d'où viennent-elles? Elles viennent souvent d'amis qui sont ou sont proches, soit des membres de la famille, ou soit de personnes en qui nous avions confiance. Et ces paroles sont tranchantes, elles font mal. Ce sont bien les dernières personnes desquelles nous attendions une attaque verbale et qui va pénétrer, qui va trancher, qui va, avec ce bord acéré, qui va me blesser, qui va me faire du mal. Dans le psaume 55, verset 13, verset 15, puis le verset 21, Francisco, tu peux nous lire le psaume 55, verset 13 à 15, puis le verset 21.
Psaume 55, 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu.
Le verset 21.
Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance.
Oui, parfois, nous commençons la route avec un ami, avec un frère, avec, dans la foi, un frère, une sœur dans la foi. Nous faisons route ensemble, nous commençons, on construit des choses, on échange des choses, on partage. Et puis à un moment, il y a le clash. C'est fini. Celui en qui je m'étais confié, celui avec lequel, qui était mon ami, que je considérais, j'avais de la considération pour lui. À un moment, c'est le clash. C'est terrible. Là, il est dit, c'est pas un ennemi qui me déshonore. Ce n'est pas un ennemi qui m'attaque, qui me blesse. Non, c'est toi. C'est toi, mon frère, ma sœur, c'est toi, mon ami, c'est toi, ma confidente, c'est toi qui viens à un moment Hadad, dans la Bible, vous avez peut-être entendu parler de Hadad, est accueilli avec bonté par le Pharaon, qui va lui donner une maison, des terres, qui pourvoit sa subsistance, et lui accorde même la main d'une princesse égyptienne, sœur de la reine d'Égypte. Puis Hadad, après la mort de David et de Joab, grands ennemis de sa race, de la race de Hadad, retourne à Édom et devient l'adversaire de Salomon. Voilà, hein, Hadad qui avait reçu tous les honneurs, toute la bonté du Pharaon, eh bien voici qu'il va se retourner dans un roi, ça vous pouvez le lire dans un roi, chapitre 11. David aussi va connaître la blessure profonde des paroles tranchantes de ses frères. Dieu a rejeté Saül comme roi et a envoyé Samuel oindre un des fils d'Isaïe. Le premier qui se présente, l'aîné Eliab, de grande taille, est rejeté, et ainsi de suite. Il ne reste plus que David, le plus jeune, qui est dehors à garder les moutons. On ne prend même pas la peine de l'appeler. Son père Esaïe le prie d'emporter des provisions à ses frères, qui sont dans l'armée de Saül et combattent les Philistins. Son frère aîné, Eliab, ne digère peut-être pas le succès de son frère et nourrit de la jalousie en son cœur. Vous voyez, paroles tranchantes viennent du cœur et viennent de la jalousie. C'est son propre frère, donc ces paroles tranchantes, un ami proche, un membre de la famille. Donc comment son frère Eliab va-t-il accueillir David ? Enflammé de colère contre David, nous est-il dit. Il dit, pourquoi es-tu descendu ? Y a qui ? As-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Dans 1 Samuel, chapitre 17. Voilà, mes amis, l'origine de ces paroles tranchantes. Un membre de la famille. Moïse aussi va connaître la blessure profonde des paroles tranchantes de sa sœur. Sa sœur Myriam s'est sans doute souvent posé cette question. Comment mon frère Moïse a-t-il pu se marier avec Séphora, une Éthiopienne, et en plus que cela, et c'est une noire. C'est une étrangère à la race d'Israël. Elle ne peut être donc qualifiée pour la haute situation qu'elle occupe. Cette union est devenue une cause profonde d'humiliation, de constante douleur, un mystère impénétrable. Myriam se laisse aller à parler autour d'elle contre Moïse. Qu'aurait-elle dû faire ? Aller uniquement à Dieu pour lui dire sa douleur. Par son attitude, elle appelle la colère divine sur sa tête et sur celle d'Aaron. Nos paroles tranchantes, nos paroles qui blessent, qui font du mal à l'autre, attirent la colère sur nous. Comme cela s'est passé pour Myriam. Car tous disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Voilà l'orgueil, voilà l'attitude de Myriam. Donc, quelles sont les premières réactions après une blessure suite à des paroles tranchantes ? Comment devons-nous réagir ? Celui qui vient d'être blessé par des paroles tranchantes peut ne pas éprouver tout de suite la douleur de la blessure, mais seulement après ces paroles, ça remue, ça travaille, ça tourne dans le cœur, ça tourne dans les pensées. Et la nuit et le jour, je n'arrive pas à dormir parce que ces paroles, ce qu'il m'a dit, ce que mon frère m'a dit, ce que ma sœur m'a dit, ça tourne là dans la tête. Celui qui vient d'être blessé par des paroles peut vivre aussi immédiatement comme sous un état de choc. Quoi, toi ? Tu me dis des telles paroles ? Hein ? Non, toi, mon ami, j'avais de l'estime pour toi. C'est le choc. Il va alors développer, cette personne qui reçoit ces paroles va développer de la pitié pour lui-même. Ou bien nourrir un esprit amer envers l'offenseur. Cette amertume, alors que l'apôtre Paul nous dit, soyez débarrassés de toute racine d'amertume de votre cœur. Cette amertume, si elle est là, dans le cœur, si elle descend, va produire une infection profondeur dans l'âme et je vais me rendre incapable d'aller vers mon frère, d'aller vers ma sœur pour aller me réconcilier, pour lui faire l'effort de mettre les choses en face, de régler les choses. Cette infection peut suppurer et s'envenimer au fil des années. Combien, n'est-ce pas, de Vous connaissez peut-être des membres de vos familles ou auprès des amis, combien, alors des choses qui se sont passées dans l'enfance, et cela traîne 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, presque jusqu'à la mort. On reste, ça s'est tellement infecté, cela est tellement descendu au fond des entrailles, mais oui, nos paroles qui peuvent durer longtemps. Avec le temps, la blessure peut sembler guérie à la surface, mais plus tard, le souvenir de cette souffrance peut raviver la douleur, car la plaie met du temps à cicatriser en profondeur. Les gens oublient la plupart des événements de leur vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Mais une remarque particulièrement cinglante peut rester gravée des dizaines d'années. Des paroles cinglantes, des paroles qui frappent, des paroles qui tranchent, ça peut rester des années et des années. Vous connaissez peut-être dans vos propres vies ou dans la vie de vos bien-aimés. Le tranchant aigu d'une lame fait une vive blessure. Les mauvaises paroles causent une blessure plus difficile encore à cicatriser. Vous voyez, je me blesse avec un couteau, je me blesse avec cela, il faut un certain temps pour guérir, mais les mauvaises paroles ont causé une blessure qui est souvent plus difficile à cicatriser que les blessures qu'on peut se faire par un instrument. La flèche sort de la blessure, mais le coup de langue reste dans le cœur. La flèche sort de la blessure, on peut retirer la flèche, mais le coup de langue reste dans le cœur. Je ne peux pas le retirer, ce coup de langue. Il reste. La victime, celui qui reçoit de telles paroles, reste vulnérable, fragile, délicat. Il peut réellement douter de sa valeur personnelle parce qu'il a entendu tellement de choses depuis son enfance jusqu'à ou bien une fois ou deux fois. Ça s'est multiplié. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre? Combien il y en a qui se suicident aujourd'hui uniquement comme fruit, comme résultat des mauvaises paroles, des paroles tranchantes qu'ils ont reçues d'un frère, d'une sœur, d'un membre de la famille? Pourquoi peut-il douter réellement de sa valeur? Parce qu'il peut penser qu'il y a du vrai dans les propos qu'il a entendus. Peut-être a-t-il raison. Nous devons apprendre donc à venir au pied du Seigneur et déposer tout cela. Oui. Comment aider celui qui souffre injustement à cause de telles paroles tranchantes? Comment aider celui qui a été blessé par un proche en qui il avait mis toute sa confiance? Son premier besoin, c'est qu'il a besoin d'un contact direct d'un ami, d'un autre ami. Il a besoin d'un frère, il a besoin d'une sœur, il a besoin d'un ami qui va lui parler, qui aime ses paroles, si ses paroles sont pleines de douceur, pleines de grâce, vont pouvoir aider. Oui, cet ami qui devra lui apporter ou accorder toute son attention, il devra se sentir qu'il est aimé par celui auquel il est. Auquel il s'adresse. Cet ami pourra l'aider à rétablir la juste perspective des choses, à le rassurer. Peut-être, oui, tu as entendu ceci, mais peut-être ça ne s'est pas passé, ou tu n'as pas bien compris, ou bien, voilà, avec des paroles de douceur et de grâce, il pourra l'aider à se reconstruire intérieurement. Deuxième traitement, eh bien, c'est sûr, c'est la parole de Dieu qui est là. La plaie provoquée par ce coup de langue produit par cette épée, cette parole tranchante, a besoin d'être nettoyée par la parole. Les promesses même de Dieu doivent être là, elles sont là pour réconforter. La parole a la puissance de guérir une âme blessée et de réconforter un cœur brisé. Je dois apprendre, à travers sa parole qui est efficace, qui est puissante, je dois apprendre à ce que cette âme, à ce que mon âme soit, qui est blessée, eh bien, soit guérie. Tout ça, c'est un apprentissage. Je dois apprendre à vivre avec la parole, à laisser cette parole, la parole de Dieu, me transpercer de la bonne manière. Et parfois, il sera bon de dire à mon ami qui a été blessé. Bien, lis donc à haute voix des passages qui sont appropriés, face, qui sont en rapport avec la situation, avec la blessure que tu as reçue. Et s'il y a des choses bien que tu n'as pas compris, si tu n'as pas compris si ta parole, ces paroles-là qui ont dit, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire. Viens à Jésus. Dis-lui les paroles qui t'ont blessé. Parce qu'il y en a qui, au lieu de venir au pied de Jésus pour le dire à Jésus, ils vont aller papoter, ils vont aller le répandre, le col porté tout autour d'eux. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça qui peut apporter la guérison. Jésus est là. Si Jésus parfois était présent quand nous disons certaines choses, si nous réalisions que Jésus est là, certaines paroles de nos bouches nous sortiraient pas. Parce que nous savons que Jésus nous voit. Et si Jésus nous voit au moment où nous prononçons certaines paroles, il est là aussi, nous voit quand nous sommes dans la tristesse, dans la souffrance, dans la douleur, dans les larmes, à cause de telles paroles qui sont là dans mon cœur. Jésus, je te dis, je t'apporte ces paroles. Ces paroles, mon frère, ma soeur, mon ami, mon mari, ma femme, mon enfant, m'a blessé. Seigneur, tu vois ma blessure. Viens me consoler. Viens m'aider, Seigneur. Pendant que la plaie est en train de guérir, il faut du temps parfois pour qu'une plaie se guérisse. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph avec ses frères, n'est-ce pas? Combien d'années se sont passées entre les paroles, les actions de ses frères vis-à-vis de Joseph jusqu'au moment où Joseph va les prendre dans ses bras et les accueillir vraiment comme ses frères après tout le mal qu'ils lui ont fait. Donc, pendant que la plaie est en train de guérir, disons à notre ami, à celui qui a été blessé, oui, attends-toi au Seigneur. Prends courage. Laisse-toi fortifier par lui dans ton cœur. Il y a des psaumes, comme le psaume 27, le psaume 35, le psaume 41, le psaume 46, 55. Voilà, il y a un certain nombre de psaumes qui peuvent aider dans des situations bien particulières. Oui, comme dit le psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. » Peu importe ce qu'on m'a dit, peu importe cette parole tranchante ou blessante, eh bien, je le célébrerai encore. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu, parce qu'il y en a combien qui perdent la foi, qui abandonnent la foi à cause des paroles qui ont blessé, qui ont fait du mal. Le psaume 27 aussi nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Psaume 27. Quoi que ce soit qu'il m'arrive, quoi que ce soit qu'on m'ait dit, quoi que ce soit, quelle saleté, quelle crasse, quelle poussière, quelle méchanceté qu'on m'a dit, j'espère en l'Éternel. Je ne me laisse pas décourager, je ne me laisse pas démonter, je continue ma route, je suis en marche, je persévère. Sur la route, je sais que Jésus revient bientôt, il revient bientôt et je ne veux pas me laisser être là fatigué, être là déprimé, être là déboussolé parce que, oui, cette parole m'a ébranlé, m'a secoué et puis je ne sais plus où. Non, Seigneur, je m'attends à toi, j'espère en toi, je sais que tu reviens bientôt, je sais que tu m'aimes comme je suis, ces paroles m'ont blessé ou j'ai blessé l'autre. Seigneur, mais je m'attends à toi, je regarde à toi. Tu es mon secours, tu es mon salut. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Ne nous laissons pas ébranler par ce que nous pouvons entendre. Combien il y en a qui sont ébranlés, qui abandonnent, qui, pendant un dimanche, deux dimanches, un mois, deux ans, ou je ne sais combien de temps, qui abandonnent l'Église. Parce qu'un frère, parce qu'une sœur, parce qu'un ami l'a blessé. Ne regardons pas aux hommes. Des hommes peuvent nous décevoir. Des frères peuvent nous décevoir, des sœurs peuvent nous décevoir, mais Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Ne nous laissons pas ébranler par ce que nous pouvons entendre dans ce monde. Regardons à Jésus. Oui, revêtons-nous. Voilà le quatrième traitement, au fond. Efficacité, bien, se revêtir chaque jour de l'armure spirituelle pour nous protéger contre de nouvelles attaques. Aujourd'hui, tu as eu cette attaque. Est-ce que demain, tu sais si tu n'auras pas une autre attaque? ou dans une semaine, ou dans un mois, il y aura peut-être une nouvelle, encore une attaque. Si nous ne sommes pas armés, bien, on va se laisser ébranler. Mais si on s'attache à lui, si on croit en ses promesses, si on proclame ses promesses, alors nous ne nous laisserons pas ébranler. Vous croyez que nous, parce que nous avons été missionnaires en Afrique, eh bien, tout le monde a été beau, tout le monde a été gentil, tout le monde a été sympa envers nous. Vous croyez que nous ne sommes pas aussi, que nous n'avons pas été secoués par des amis, par des frères et sœurs auxquels nous avions confiance. Nous sommes passés par là aussi, mes amis. Mais nous sommes toujours debout. Et nous resterons debout jusqu'au bout. Les paroles des amis, de ceux qui nous ont été proches, ne nous ont pas ébranlés, ne nous ébranleront pas. Oui, soyons, disons comme l'apôtre Paul, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni les anges, ni la faim, ni la nudité, personne ne pourra jamais me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien n'y permet. Je serai fidèle, je resterai fidèle, je resterai attaché à sa parole, je resterai attaché à mon Dieu, parce que peuvent me faire un homme? Le psaume 109, verset 4, il dit « Moi, mais moi, je recours à la prière. » C'est la prière, la communion avec le Seigneur qui nous rend forts et inébranlables face à tout ce que nous on peut nous dire contre nous. Et souvent, c'est d'égal à égal, vous savez. Le Seigneur, c'était un apôtre, c'était un disciple de Jésus-Christ, c'est Judas, ce qu'il a choisi, qui va le trahir, qui va être son ennemi. C'est souvent quelqu'un d'égal à égal. Un pasteur va avoir comme ennemi un autre pasteur. Un missionnaire va avoir comme ennemi un missionnaire. Quels sont ceux qui ont peut-être le plus blessé David? Je ne sais pas. Mais souvent, c'est un autre, du même niveau, de la même. Pour nous, c'est d'autres missionnaires qui nous ont blessés. Ça peut être bien sûr des chrétiens de l'Église, mais personne du même niveau que nous. Voilà. De toute façon, nous sommes tous à égalité devant le Seigneur. Et nous aurons tous à rendre compte devant le Seigneur. Oui, la prière est la méthode la plus sûre pour répliquer aux paroles haines, aux paroles tranchantes, aux paroles d'un proche, de quelqu'un en qui nous avions confiance. Des langues mensongères s'affairent contre la réputation de David. Il ne se défend pas lui-même. Il remet son cas à la plus haute cour et plaide devant le grand roi lui-même. David, pas notre David, ici, David le roi David, mais c'est aussi peut-être son cas. David prie d'une façon qui est loin d'être celle d'un être au cœur froid. Il se donne à cette pratique et lance son âme et tout son cœur dans cet effort. Jacob va faire de même lorsqu'il va lutter avec l'ange. Mes amis, notre vie, c'est un combat. Notre vie, c'est un combat. Nous avons des pensées, nous avons des actions, nous avons des œuvres. Nous avons une bouche, nous avons des paroles. Voilà. Tout cela sera tamisé par le Seigneur. Si je ne me laisse pas, si je ne tamise pas moi-même mes pensées, mes paroles, mes œuvres, le Seigneur le fera. Et c'est plus douloureux quand le Seigneur le fait que quand on le fait soi-même. Quand je me laisse tamiser, quand je me tamise moi-même, et Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu des paroles qui sont sorties trop vite, des paroles qui ont blessé, où il y a un flot de paroles qui sort de ma bouche, et où elles ne sont pas utiles, où elles peuvent blesser, Seigneur, mais une garde à la poche, à la porte de ma bouche. Voilà, nous n'avons pas le temps pour continuer sur les paroles acerbes, blessantes, offensantes. D'où viennent-elles? Dans les troisièmes, quatrièmes, cinquièmes types de paroles. Voilà. Et que le Seigneur nous aide à être vraiment ce qu'il veut que nous soyons. Les disciples sincères, totales, engagés, et apprenons à faire sortir de nos bouches des paroles pleines de grâce, pleines de douceur, pleines d'amour, pleine d'autorité, quand c'est nécessaire aussi, que nous soyons en bénédiction les uns les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole.